Aujourd'hui, une émission spéciale sur Léo Ferré, avec la présence de Françoise Travelet, auteur du livre « Dis donc Ferré ».
Tu peux barrer, comment t'as regardé seulement le titre.
Et la présence aussi de Paul Castagnier.
Auteur de la comédie humaine, c'est signé ça avec Balzac.
En coproduction.
Mais absolument.
Et de Waza, qui
Waza, qui
est un chanteur japonais aussi. On fera le point sur la relation avec cette émission tout à l'heure. Alors, Françoise, pourquoi ce titre ?
Oh bah c'est un hasard. C'est-à-dire que bon, on avait pensé, on avait fait d'ailleurs avec Léo un texte pour un programme Le Chien, la mutualité. Puis ensuite, on avait fait un texte pour l'album La Solitude qui s'appelait Dialogue avec la Solitude. Et puis quand le livre a été fait, on s'est posé la question comment appeler le livre. Alors Léo n'était pas pour un dialogue avec la solitude qui semblait l'identifier à la solitude. Ouais. Et c'est un ami, c'est Richard Marsan, qui un jour comme ça a dit « Pourquoi pas dis donc Ferré ?» Puis on a dit « Pourquoi pas dis donc Ferré ?»
Richard, ça va.
Ouais. Et c'est un peu interrogatif, quand même.
C'est une interpellation, oui. Ouais. C'était un peu pour...
C'était pour donner le climat.
C'était pour donner le climat, parce que c'était un livre à deux voix. Donc ça voulait dire, c'est une interpellation, Léo Ferré y répondra. C'était « dis donc » avec complicité gentille. Et puis c'était « dis donc » un petit peu agressif, sur certains petits points, pour qu'il s'explique éventuellement sur des choses où on pouvait lui poser des questions plus précises. Donc ça combinait un petit peu tout. Et c'était, moi, je trouvais que c'était bien. Et puis Léo aussi, on a dit « ok pour dis donc, Ferré ».
Et moi, on reparlera plus longuement de ce livre au cours de l'émission. Et je voudrais dire aussi que je l'ai lu deux fois parce qu'il m'a beaucoup intéressé et il est bien écrit.
Merci.
Voilà pour les louanges.
Oui, je ne sais pas quoi dire à ça.
Il n'y a rien à dire. Alors, Paul, c'est à ton tour maintenant.
Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, c'est quoi le social ?
Non. C'est la cour, c'est le carrément c'est le tribunal.
Le juge, où il est au téléphone, non ? Oui. Il paraît qu'il y a des auditeurs qui demandent plein de bêtises, c'est vrai ? Des trucs terribles sur les gens. Non, pas chez vous, hein.
Non, je voudrais quand même préciser qu'on n'est pas une émission en relation avec France La Manche.
Ah oui, ça, vous êtes sûr, hein. Parce qu'il paraît qu'il y a des fois des gens qui demandent des trucs bizarres. Est-ce qu'un tel a fait vraiment ça? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Ou alors, est-ce qu'Aragon et comment? C'est vrai? Non, du mot, c'est vrai.
Vous le saurez.
Si je le sens, bon, on verra bien.
Alors, Popol, bon, tu as longtemps travaillé avec Léo.
Léo m'a millésimé, tu vois, c'est-à-dire que sans Léo... Peut-être que je ferais partie de tous les gens qui téléphoneraient pour dire « Mais alors, c'est vrai que Léo, etc. » Non, il m'a vraiment millésimé, Léo.
Comment ça s'est fait, ta rencontre avec Léo?
Je travaillais dans un cabaret, ça s'appelait chez Plumeau.
Ouais, Plumeau.
Bah oui, mon biographe t'expliquera ça quand je serai mort. C'était une boîte très sympa, où il y avait des bons potes. Et Léo est venu pour chanter dans cette boîte, et il a vu qu'il pouvait s'entendre avec le pianiste de la maison. Et on a commencé ensemble, et on a fait 15 ans.
C'était en quelle année, ça?
En 1857. C'est un empire quand même.
Et donc, ce cabaret, c'est un cabaret, je pense.
Ouais,
est-ce qu'il existe toujours ou...
Ah, attends, enfin, je prenne le guide de.
De Paris, de Goémier.
Sûrement, non, il existe. Pas de raison. Et c'était à l'époque un mec qui s'appelait Jean Méjean qui dirigeait ça. C'était un très chouette mec qui avait décidé de faire venir sur la butte un tas de gens pas cons qui chantaient un peu ailleurs. Et crois-moi que sur la butte, à l'époque, on entendait que des chansons qui n'intéressent maintenant que les étudiants en médecine, qui sont des gens charmants, d'ailleurs. Du corps de garde, des trucs sympas, toi. C'était un peu comme ça, la butte, à l'époque. Et Méjean, il a fait venir des gens comme Léo, Mouloudji, enfin... Des choses qui sont un peu moins corps de garde, si j'ai bien compris.
Ouais. Et Brassens aussi passé dans ce
truc. Ah, je sais pas s'il a fait venir Brassens. Ah, bah, Brassens...
Et... Non, parce que là, on aborde un peu la trilogie.
Je sais... Ah, la trilogie.
Ou la quadrilogie des,
merde, qui ça
des chanteurs, des grands chanteurs comme on les baptise.
Ah ouais, d'accord. Non, je ne crois pas que Brassens soit passé là-haut, je ne crois pas. Non.
Mais chez Plumeau, c'est un peu marrant.
Oui, c'est marrant, mais comment tu vas me faire croire qu'il n'y a que moi qui sais ça, dis donc, t'inquiète. Je suis né en... Enfin non, c'est trop grave maintenant, alors je ne dirai plus mon âge. Alors
oui, allez, Françoise, alors je repasse à toi. Comment s'est fait ta rencontre avec Léo? Pourquoi d'abord tu as eu envie d'écrire ce livre?
Oh ben ça s'est fait parce que j'avais envie de rencontrer Léo. Bon, j'avais assisté à des spectacles comme tout le monde avec admiration, avec joie, avec bonheur. Enfin, quand on voit Ferré sur scène, bon, c'est forcément un état d'exaltation. J'ai eu la chance en 69 de travailler dans un canard qui était fait par des journalistes qui avaient été foutus à la porte après 68 de l'ORTF. Ouais. Ouais, oui, alors je dis que c'était une chance, pas pour eux, mais c'était une chance pour moi. Comme j'étais étudiante à l'époque, ils m'ont embarqué avec eux et ils m'ont dit « tu fais ce que tu veux ». Alors c'était tout à fait formidable et moi j'ai dit « je veux rencontrer Léo Ferré, si c'est possible ». Et j'ai demandé à rencontrer Léo, bon j'ai écrit... Et puis, bon, j'ai rencontré des amis à lui, et puis de Don Popol, d'ailleurs, à cette époque-là. Et puis, on s'est... finalement, un jour, ça s'est fait. Un jour, un ami de Léo m'a téléphoné en disant « on vous attend ». Il était 6h du soir, 6h30, et puis, bon, bah, c'était formidable. C'était au mois de juin 69. Bon, et après, alors ça a duré pendant 2 heures. Il m'avait dit qu'il n'avait pas le temps de me rencontrer parce que c'était une interview un peu... C'était dans le cadre d'un article sur la chanson globale, les chansons Savonnette. Alors, ça n'intéressait pas. Il m'a dit, j'ai 10 minutes à vous consacrer.
Attention de ne pas glisser.
Oui, attention de ne pas glisser. Il m'a dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, il m'a dit, ça fera 10 minutes, quoi. Bon, j'ai pas de temps, j'ai pas plus de temps. Et puis, finalement, ça a duré 2 heures. Et puis, on a parlé absolument pas des chansons Savonnette. On a parlé d'Apollinaire, on a parlé de Baudelaire, on a parlé de Rimbaud. Et là-dessus, bon, il m'a dit, il faudrait qu'on se revoie, il faudrait qu'on fasse un programme. Ça serait chouette de faire un truc ensemble. Puis petit à petit, bon, le programme a été fait, puis ceci a été fait, et puis à ce moment-là, bon, on s'est dit pourquoi pas un livre. Je ne sais pas du tout, je me souviens plus qui a eu l'idée du livre, mais je crois que c'est venu un petit peu du fait que, oui, qu'on parlait, qu'on se rencontrait souvent, et qu'à force d'avoir des interviews, de se rencontrer, un jour on s'est dit pourquoi pas, puis on l'a fait. Ouais. Ça a duré un certain temps quand même, parce que Léo, ne vivant pas en France, les rencontres, les coups de téléphone, les bandes, les échanges de cassettes par poste, tout ça, le temps de ramasser d'amasser le matériau.
En tournée, hein. Moi je veux tout raconter. Hein.
Oui, en tournée, en Bretagne, on était ensemble, mais j'en ai parlé dans le livre, de la tournée où on était, j'ai même parlé de toi, parlé de toi.
Popol l'a pas lu, je crois.
Tu sais, j'attends que la parution en braille, et puis voilà. Oh, attention.
Alors, c'était pas triste les tournées, entre parenthèses.
Non. Ouais. Je pense que. Est-ce que ça t'invite à parler justement de ça, des tournées? Est-ce que c'était très émouvant pour toi?
C'était quelque
chose que tu connaissais ou pas?
Non, j'avais fait une petite enquête sur les tournées des chanteurs. J'avais vu Claude François, passionnant. J'avais vu Reggiani, j'avais fait une espèce de chose sur les tournées d'été. Bon, mais c'est pas les tournées qui m'intéressaient, c'était le fait de pouvoir vivre 3 jours. Avec Léo, avec son entourage, de voir comment ça se passait finalement avant le spectacle, après le spectacle, quel était le rythme de vie. Bon, cela dit, je ne pense pas que Léo adore le rythme des tournées. C'est pas du tout
son style.
Non, son style, c'est très fatigant. En plus, c'est extrêmement fatigant pour tout le monde. Hein. Bon, les nuits, ça finit à 6h du matin parce qu'il y a toujours des gens qui cavalent dans les couloirs, surtout l'été, la plage, tout ça, les départs à la gare. Enfin, moi, j'ai un mauvais souvenir des chambres d'hôtel, des repas et tout ça. Bon, mais cela dit, il y avait une ambiance formidable. Il y avait une ambiance formidable.
C'est un peu chouette.
Ah bon chouette, ouais. Bah, moi, j'ai vu que celle de Bretagne, tu connais. Hein.
La Bretagne, je connais.
Chapiteau. Ça, avec Glenmore, tu te souviens.
Ah, c'est celle-là.
C'est celle-là, oui.
Ah, d'accord. Ah, bon.
Alors, qui c'est qui fait la mémoire de l'un? Et celle de l'autre, c'est
Popol.
On s'épaule, on s'épaule.
On s'épaule.
On n'a pas parlé de tout ça avant la mission. Hein. Si on a exactement répété le texte, on est en train de dire exactement ce qu'on a dit avant.
Voilà. T'as oublié une virgule tout à l'heure. J'ai failli te le dire.
En fait, c'est une cassette.
C'est une cassette. Oh, merci.
Alors, nous allons retrouver Léo avec cette fois-ci Aragon et Est-ce ainsi que les hommes vivent? Un très beau poème qui est, je pense, une interrogation à tous les hommes.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?
C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était telle ou moins drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers, au loin, les suivent? Comme des soleils révolus.
Voilà, c'était Aragon par Léo.
Voilà, bah à cause de toi, Françoise, personne ne téléphone. Comme tu as dit que les gens disaient des bêtises, bah les
j'ai
gens...
Dit.
Ah si,
j'ai
ah,
dit.
C'est toi. Vache. Vous pouvez téléphoner, hein, c'est quoi déjà
Le 262 90 51.
Ah c'est ça, le 261 50 00, c'est ça.
Non, c'est la SNCF. Et cette émission donc, dans le cadre de la vie d'artiste, qui est une émission entièrement consacrée à la chanson, et qui est un art, et aussi aux arts plastiques. Nous avons aujourd'hui Françoise Travelet, qui, je le répète, est auteur du livre Dis donc Ferré, qui est paru aux éditions Plasma.
Pouvez-vous tourner le téléphone, monsieur, parce qu'il y a quelqu'un qui a troublé, alors on n'a pas bien compris.
262 90 51.
Voilà.
Et Paul Castagnier, qui est pianiste, qui est à la technique, qui est partout.
Partout, je suis partout. Ça, c'était une revue Réac, non, qui s'appelait...
plus que Réac, mon vieux.
Oh, bah, plus que Réac.
Bah, c'était fasciste, oui.
Et ben voilà, c'est ce que je voulais dire.
Alors bon, on va quand même revenir un peu sur Léo.
On va revenir.
En faisant quelques écarts, tout voilà. De même. Et moi, je voudrais savoir un peu pour chacun de vous, ce qui vous a attiré chez Léo. C'est bon, soit une raison de travail matériel, ou est-ce que... Ou est-ce que c'est le personnage? C'est une question.
Vas-y, papa.
C'est lui.
C'est une question acide.
Pour des raisons matérielles. Qui c'est qui a été attiré pour des raisons? Non, mais Léo, j'ai manqué d'humour. Léo, sans Léo, moi, je. Tu te rends pas compte de ce que tu demandes là, c'est un vaste programme.
Mais justement.
Léo, c'est une conférence. Non, merci, arrêtez à boire. Je veux dire, Léo, c'est un mec qui nous a amené à tous un tas de choses. Et moi, parmi les autres, j'étais bien placé, puisque il a chanté des choses extraordinaires. C'est un animal politique, c'est un animal poétique, c'est un ethnologue qui regarde les gens parce qu'il se connaît bien lui-même et puis les autres. Il peut parler... Et puis en plus, il arrive à il a tellement le sens de l'image, le sens de tout, qu'il te fait piger. Il parle à tout le monde, Léo. C'est une espèce de symboliste qui parlerait à tout le monde. Et c'est pas à donner à tous les symbolistes.
Ouais.
Tu comprends ? Bon, cela dit, si tu veux, je me lance dans un panier chérique, on dit. Ça risque d'être vite mortel, et puis ça fait culte de la personnalité.
Ouais, non, non, mais justement, je voulais aborder quand même...
Abordons.
Abordons, si tu veux, l'éthique que représente Léo Ferré. Bon, parce que ça en est une, je pense.
L'éthique ?
Non.
En combien de mots ? En combien de mots ? Non, mais ça s'appelle l'éthique. En deux mots, l'éthique.
Sans le H, sans le H.
L'éthique ? Il se gratte une fois, n'est-ce pas ?
Non.
Ah, il ne bouge pas le micro.
Non, je vais parler de mon expérience personnelle.
Vas-y,
pourquoi, comment et où ? Si tu veux, j'ai commencé d'écouter Léo Ferré à 13 ans. Et je dis honnêtement, ça a changé carrément ma vie, tu vois.
Je te comprends.
Ça m'a fait penser à autre chose. C'est...
À plein de choses.
C'était aussi... c'était abordé aussi tout le côté de la poésie, tu vois, que je connaissais pas. Bon, parce que je suis né dans une famille où on n'avait justement pas accès ni à la poésie ni à la musique parce que mes parents n'étaient pas en rond.
Bien sûr.
Ils n'avaient ni piano, ni tourne-disque, ni rien. Alors j'ai commencé par acheter en 69 un disque de Léo Ferré.
T'avais 13 ans, 69. Et après, comme le temps passe.
Et alors là, j'ai commencé à bouquiner et tout. Ça a été un départ
chouette,
de ma
ça.
Vie. Non, mais c'est un témoignage.
C'est chouette, mais...
Quand vous en donnez pas, j'en donne.
Oh, dis donc, salaud ce mec-là. Moi, bon, alors, je vais te dire, puisque tu le prends comme ça, moi, quand j'avais, enfin, disons, moins de 20 ans, autour de l'âge de 15 ans, j'ai écouté un jour à la radio belge quelqu'un qui s'est mis à chanter La chambre ou la vie d'artiste, je sais pas. Et à l'époque, j'avais lu un bouquin de Daudet. C'était pas Léon Daudet, hein, non. C'était un anarchiste de droite, Léon Daudet, non? J'avais Alphonse Daudet qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Le Petit Chose. Et il y avait un pauvre malheureux qui s'escrimait dans ce bouquin. Enfin, à essayer de gagner sa vie. Il était un peu pion, il était triste, la vie était dure, et puis sa mère était morte. Il y avait un type qui était bègue, enfin tout quoi. Et moi, j'ai entendu ce jour-là, à l'époque, j'ai entendu parler de Saint-Germain-des-Prés. C'était autour de 50, peut-être, 49-50. Et j'ai entendu à la radio la chanson de Léo, La vie d'artiste ou La chambre, je ne sais plus. C'est la vie d'artiste. Ah, ça m'a bouleversé. Et je me disais, c'est marrant parce que j'étais musicien tout petit. Moi, j'ai rien fait pour être musicien. Ça m'est venu comme ça. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien accompagner ce type. Et je vous jure, vraiment, hein, c'est pas une blague.
Ouais.
On est bien à France Dimanche, je me trompe pas. Hein. Non, sans blague.
RTL.
Ben voilà, c'est tout. Hein.
Ouais, c'était tout.
Non,
bon.
Non, non.
Et pour toi, François ?
Bah, moi, je crois que c'était d'abord le... Enfin, le premier disque que j'ai entendu, je crois que c'était le disque Aragon, chanté par Ferré. Bon, là, c'était quand j'étais au lycée. Bon, oui, non. Si, c'était... Bon, mais bon, ensuite, j'ai écouté les chansons de Léo. Ce qui m'a fasciné immédiatement, c'est le génie du verbe. C'est le délire verbal. Et en même temps, c'est le choc des images. Je crois que j'ai été touchée par la poésie de Léo, c'est-à-dire par le texte, d'abord. Bon, puis ensuite, bon, j'ai découvert la musique. Mais je sais que ça va... Ça, c'est la démarche un peu inverse pour lui, parce que pour lui, la musique est certainement la chose dominante. Mais moi, c'était le mot, d'abord.
Bah oui.
Le mot. Bon, c'était Rimbaud. Ça a été... Enfin, c'était un Rimbaud vivant, quoi, pour moi, non, au départ. C'était un Rimbaud vivant. Et puis ensuite, bon, ben, j'ai découvert... Enfin, j'ai vraiment acheté tous les disques. Je crois que je pouvais trouver, vu tous les spectacles. Et vraiment, bon, je lui dis, c'est pas de la flagornerie. Il y avait vraiment un seul type que je voulais rencontrer, c'était Léo Ferré.
Bon, non, j'ai pas là, tellement... Je voulais connaître Jules Verne, hein.
Oui, mais ça, c'était...
Il est mort en 1911.
C'était un peu tard, oui.
T'es monté dans ta machine à remonter le temps.
Ah, mais écoute, quand j'étais gosse, je voulais connaître Jules Verne. Et ouais, ça, vous ne lui demandez pas, mon camarade qui est japonais, lui. Est-ce que vous parlez français, vous, monsieur ?
Oui.
Un petit peu. Ah, si tu veux,
est-ce que tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît ?
Ouais.
Alors, est-ce que tu connais Léo Ferré ? C'est un piège, attention.
Oui, je le connais pas personnellement. Quand j'étais au Japon, je le connaissais, enfin, j'écoutais souvent ce disque.
Ah, il est connu au Japon
déjà chanteur. Il est connu, mais il n'est jamais venu au Japon.
Je me demande pourquoi.
Bien qu'il y ait beaucoup de gens qui l'attendent.
Je peux te le dire, mais je te le dirai.
Et puis, j'étais déjà chanteur, et puis bon, j'étais fou de la poésie française. Donc, un jour, j'ai découvert un disque de Léo Ferré, je ne me rappelle plus lequel. Il y avait avec le temps, enfin il y avait d'autres chansons qui sont anciennes, tout ça. Et alors j'ai eu envie de chanter.
Tu as chanté Léo Ferré ou...
Oui, bah,
un japonais ou quoi?
Et puis bon,
pas en japonais.
Non, c'était intradésible, oui.
Il n'y a qu'une chanson de Léo Ferré qui chante en japonais, c'est La Mer, je crois.
C'est pas le même.
Et donc, je connaissais... je connaissais comme ça Paul.
Ah, Paul. Monsieur Paul
Castagnier. Monsieur Paul Castagnier, s'il vous plaît, monsieur mon maître. Et alors, bon... Voilà.
Encore Léo, et pour le bien, Allende.
Ne plus écrire, enfin. Attendre le signal. Celui qui sonnera doublé de 1000 octaves. Quand passeront au vert les morales suaves. Quand le bien peignera la crinière du mal. Quand les bêtes sauront qu'on les met dans des plats. Quand les femmes mettront leur sang à la fenêtre. Et ils sentent leur calice à hauteur de leur maître, quand elles diront bois en mémoire de moi. Quand les oiseaux septembre iront chasser les cons, quand les mecs cravatés respireront quand même, et qu'il se sentera dedans les HLM, la messe du granit. Sur un hôtel béton. Quand les voteurs votants se mettront tous d'accord sur une idée sur rien pour que l'horreur se taise, même si pour la rime on sort la Marseillaise avec un foulard rouge et des gants de chez Dior. Même si pour la rime, on sort la Marseillaise avec un foulard rouge et des gants de chez Dior. Alors, nous irons réveiller Allende. 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 Quand il y aura des mots plus forts que les canons, ceux qui tonnent déjà dans nos mémoires brèves, quand les tyrans, tireurs, tireront sur nos rêves, parce que de nos rêves lèvera la moisson. Quand les tueurs cagés crèveront dans la soie, qu'ils soient président si ou général de ça, quand les voix socialistes chanteront leur parti. En mesure et partant vers d'autres galaxies. Quand les amants cassés se casseront vraiment vers l'ailleurs d'autre part enfin. Et puis comment? Quand la fureur de vivre aura battu son temps. Quand l'hiver de travers se croira au printemps. Quand de ce capital qu'on prend toujours pour Marx, on ne parlera plus que pour l'honneur du titre. Quand le pape prendra ses évêques à la mitre en leur disant « Porno, latin ou non, je taxe !» Quand la rumeur du temps cessera pour de bon. Quand le bleu relatif de la mer pâlira. Quand le temps relatif aussi s'évadera de cette équation triste où le tiennent des cons qui soient mathématiques avec... Nobel ou non, c'est alors que nous réveillerons.
Oui, après les déclarations de Chesson, oui.
Ah, il est bien, Chesson. C'est rare qu'on ait un ministre qui est comme ça. Hein. Ça, c'est comme ça la diplomatie que je la conçois, tu vois.
Un ministre qui ose parler.
Ah ouais, puis celui-là, il dit pas que des bêtises, hein. On voit ça, ça a un peu changé là-dessus, quand même. Hein. Et donc, t'as vu qu'est-ce qu'il a dit exactement? Ça, c'est un bravo. Hein, chez
il a dit que Pinochet était une malédiction pour son peuple.
C'est quand même bien. Quel style, dis donc.
Il a dit Pinonnet était une.
Ouais, il n'empêche que je te signale que c'est quand même bien. Ça nous change un peu de toute cette bande de machins. Hein. Quelle horreur. Merci, M. Chesson. Bravo. Continuez. Hein. Si vous ne faites pas virer, continuez. Mais hein. Attention, parce que les Américains, ils ont la dent dure, on peut y parler. Bravo, bravo.
Ouais, tout à l'heure, Françoise, tu parlais de que Léo avait été musicien avant d'être poète. Mais je crois qu'en fait, les mots, c'est aussi de la musique, non?
Oui, mais je pense. Mais je crois que la musique, enfin, lui, il dit, hein, je ne peux dire que ce qu'il m'a dit. Il dit qu'il est musicien depuis qu'il est enfant. Enfin, avant la parole, il y a eu la musique. Il raconte souvent les directions d'orchestre imaginaires qu'il faisait sur les remparts de Monaco. Bon, tout ça peut-être, comme il a dit lui-même, dans une autobiographie un peu arrangée, parce que c'est avec le recul de l'homme sur l'enfance. Mais Benoît Misère, effectivement, bon, montre bien cet amour de la musique. Et lui-même m'a dit que, effectivement, sa première rencontre avec la musique, ça a été Beethoven, c'était la 5e symphonie dans une crèmerie, bon, où sa mère l'avait emmené au pensionnat. Et je crois que, bon, il m'a souvent dit aussi que pour lui, diriger un orchestre, faire de la musique, c'était faire 10 000 fois l'amour, c'était une chose extraordinaire. Donc je pense que pour lui, effectivement, la musique, ça vient d'abord. Mais comme il dit, bon, je savais que j'avais la musique entre les deux oreilles. Et puis, le verbe, la parole, il est évident que Léo est poète et qu'il a toujours été aussi. Je pense que sa conscience de la musique est peut-être venue avant, c'est peut-être pour ça qu'il dit. Et puis, parce qu'effectivement, son univers, c'est la musique, même quand il parle. Je crois qu'effectivement, tu as tout à fait raison. La parole, à un moment donné, devient une musique. Et le silence aussi, des fois, devient une musique.
Je rappelle quand même, que pour ceux qui l'ignorent, que Léo a mis en musique Apollinaire, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, ouais. Un peu Ruteboeuf.
Un pavillon, puisqu'il un a pavillon. Fait finalement, il voulait pas le faire, et puis il a fait la balade des pendus de façon
dans
sublime.
Une école, quand on t'apprend, avant, t'apprenais à l'école un poème.
Qu'est-ce que c'était chiant.
C'était chiant avec des profs qui ont des voix d'assassins.
On parle pas des profs. Hein.
Ah, pardon, il y en a des très bien.
Il y en a des excellents.
Ah, j'étais en train de corriger les copies avant de venir. Non, mais c'est, écoute, moi j'étais dans une école d'aveugles, j'avais déjà un enseignant, plus des aveugles, ça fait deux tards. Bon, une publicité, et je t'assure que c'était pas drôle. Alors on apprenait. Il fallait vraiment avoir envie d'aimer Villon. Et un jour, moi, quand j'ai eu 20 ans, j'écoutais des trucs de Bachelard autour des années 60. Je dis, ah, chouette, ça ira à l'école un jour. Ben, quand j'ai vu des jeunes mecs qui m'ont dit, Bachelard est un. Oh, bah oui, on nous l'enseigne, mais c'est chiant. Ben, je dis, mais non. Ah, ben, j'ai compris. Ça sera plus chiant quand ça sera plus enseigné à l'école. S'il faut vraiment que dans les écoles, on n'enseigne pas les choses pour que les gens les aiment, c'est dommage parce que l'école, c'est peut-être chiant, mais l'anti-école totale, c'est dangereux aussi. Alors, c'est pas marrant. Il faudrait revoir ça un peu sérieusement, mais pas n'importe comment.
Je crois que
Léo, lui, quand il te dit, quand il chante, quand il dit comme un fou, comme un poète, quand il te dit quelque chose de Villon, ben c'est brusquement tu passes à travers toutes les murailles du temps et tout, et tu retrouves le contact, non pas avec le didactisme et les conneries de l'université française, merci, mais tu passes directement en communication avec la voix de la poésie, quoi. Tiens, ça s'allume. Allô, allô.
Oui.
Tu fais beau, hein.
Non, mais la poésie, bon, Villon, moi, je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir réussi à faire passer un poème qui est classique de façon tout à fait nouvelle.
Bah oui.
Bon, ça c'est extraordinaire. Et pour les autres mises en musique, bon, Léo dit que lorsqu'il prend un poème, bon, il improvise sur ce poème, c'est-à-dire que il dit ça lui est dicté, que c'est quelque chose qui lui vient directement, et que bon, il ne sait pas ce qu'Apollinaire aurait pensé de la chanson du mal-aimé, mais que lui, bon, il n'y a pas d'autre musique pour cette chanson que ce qu'il a fait, par exemple. Bon, et pour Rimbaud, c'est pareil, c'est quelque chose qui, parce qu'il y a des personnalités qui, bon, avec lesquelles tu as une complicité, c'est évident. Bon, Van Gogh, qui est c'est pas au niveau de la musique, là, c'est au niveau de la peinture. Mais c'est pareil, il y a cette espèce de complicité. Or, quand il y a complicité, il y a amour. Et je crois, bon, Léo, il met en musique les gens qu'il aime comme ça. Enfin, bon, mais ça lui vient comme ça. Je veux dire, d'après ce qu'il dit, en tout cas, je pense que c'est vrai.
Et puis sa façon de mettre en musique un poète, c'est sa lecture de ce poète.
Oui, alors on
toi,
dit.
Si tu lis un poète de grec ou quelque chose d'il y a 2000 ans ou d'il y a 300 ans, bah, c'est ta vision de ce poète. Donc, il peut pas savoir ce que pense Par exemple, tu peux savoir ce que pense Homer de la façon que, ou Joyce un jour, de la façon dont tu le lis, mais ben, tu le lis fraternellement.
Bien sûr,
ben,
c'est
ben,
ça.
Oui, tu as le droit de le lire fraternellement.
Bon, cela dit, le problème avec Léo, c'est qu'une fois qu'il a lu publiquement un poème, tu peux plus le lire différemment.
Oh, Léo, faut
pas difficilement.
Dire... Ah, faut... Oui, pour le moment, bon. Non, il ne faut pas dire ça, parce que ça peut coincer des gens dans l'avenir. Mais t'as raison, mais je te comprends.
Mais je crois qu'on peut plus... Bon, moi, quand je ne peux plus lire Rimbaud sans entendre l'impulsion d'une voix derrière les mots que je lis.
Mais tu sais, t'as raison, Françoise, mais il faut rester calme, parce qu'il y a un tas de gens comme ça qui ne pourront plus travailler si on dit ça. C'est grave, hein, c'est de dire ça.
Ah non, mais Rimbaud, il n'a pas tout mis en musique de Rimbaud, hein, il reste pas mal de choses.
Non, mais il ne faut pas dire ça. Parce qu'après, un jour, il y a des gens qui ne pourront plus faire des choses s'ils veulent... Il ne faut pas faire ça, je crois pas. Fais attention, quoi. Mais t'as raison, dis ce que tu veux.
Non, parce que cela dit, les gens, à mon avis, les gens peuvent toujours mettre en musique ce qu'ils n'ont pas entendu. Je veux dire, bon, que quelqu'un qui n'a pas entendu aucune musique, bon, puis après tout, il peut se faire le vide dans la tête, et puis lire tout à fait autre chose et faire sa musique. C'est pas ça que je voulais dire. Je dis que moi, personnellement, je ne peux pas lire Rimbaud maintenant autrement que en entendant cette voix.
Si Léo était là, bonjour Léo, tu vas bien? Il va nous entendre en différé, sûrement.
Oui.
Si Léo était là, il dirait qu'il referait sa musique de Rimbaud autrement maintenant. Bon. Je suis sûr, je le connais.
Ouais,
je le vois pas souvent, mais je le connais. Non, je le connais.
Il faut reconnaître qu'il a mis admirablement en musique Rimbaud et Verlaine aussi.
Bien sûr.
Et que
lui-même aussi, peut-être.
Il a aussi composé des musiques pour quelqu'un qui est heureusement un contemporain, qui est, j'estime, un grand poète, bien qu'il s'en défende. C'est Jean-Roger Cossimon, et nous allons l'écouter.
Il se défend des poètes, Cossimon ?
Oui, un peu.
Il a tort, faut pas le défendre.
Il est très, très humble. Et nous allons l'écouter dans La commune est en lutte. Du film de Bertrand Tavernier.
Ah bon ?
On n'a pas eu de chance, il y avait la guerre, et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit, avec toi, je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front, sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères, malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires, et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
Radio Libertaire, toujours la vie d'artiste, donc jusqu'à 18h30, avec la présence de Paul Castagnier et de François Stravelet et de Wassa.
Tu sais, François, je m'excuse de reprendre, comme je parle toujours trop, mais hors antenne, tu m'as cité deux exemples fous, les assis, et puis quoi ?
Les poètes de Satan, et puis je te rajoute le bateau ivre.
Et puis moi, triste, etc. C'est évidemment, oui. Moi, je suis comme toi. Non, c'est parce que je voudrais pas qu'on décourage des gens qui auraient envie de mettre en musique des poèmes, tu comprends, quand
mais Léo, ça l'a pas découragé que Gainsbourg ait mis Le serpent qui danse de Baudelaire en musique avant lui. Ça l'a pas découragé pour autant que Duparc ait mis L'invitation au voyage de Baudelaire en musique avant lui, il n'a pas découragé.
Absolument.
Et il m'avait raconté qu'Aragon, lui avait dit qu'il y avait 45 musiciens qui avaient mis en musique ses poèmes.
Ouais.
Bon, et 45 musiciens, je pense qu'il n'y en a aucun qui s'est senti frustré. Et après tout, il peut y avoir plusieurs lectures.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui a très bien mis la musique Aragon, et je pense particulièrement à Jean Ferrat, je pense aussi à Yves Montand.
Bien sûr. Enfin, Montand, il a mis la première musique, il chante la version de Léo d'ailleurs, la musique de Léo.
Si je mettais à faire de la musique en plus, ce serait
Alors, nous avons eu une question d'un auditeur qui s'appelle Yves et qui demandait si Léo avait l'intention de refaire une symphonie, c'est-à-dire de la musique pure, comme il avait fait précédemment.
Ça, je ne sais pas. J'ai l'impression que dans son dernier triple album, il s'achemine vers la parole beaucoup. Bon, ou alors, effectivement, peut-être vers la symphonie pure. Je crois qu'il rêverait d'avoir un orchestre, je crois qu'il rêverait de pouvoir faire la symphonie. Bon, une question lundi, on lui a demandé s'il avait un opéra, s'il avait envie de faire un opéra. Il a répondu qu'il l'avait fait, et c'est vrai, il l'a fait en 51, ça s'appelait La vie d'artiste, justement. Ouais. Bon, il a fait une symphonie interrompue, qu'il appelait la symphonie interrompue. Il a fait de la musique. Je crois qu'il a certainement envie de faire de la musique. D'ailleurs, souvent, il fait des musiques toutes seules. Bon, par exemple, pour Requiem, il avait la musique de Requiem, il avait les paroles ailleurs, et c'est la musique lui vient. Moi, je pense qu'il lui manque l'orchestre, c'est tout. Mais il faut qu'on lui offre un orchestre.
Et pour Paul, qu'est-ce que tu te proposes pas de faire l'orchestre?
Ah, mais moi, dis donc, tu fous.
Un orchestre symphonique.
Un orchestre, tu me prends pour qui?
Pas Paul comme soliste. Comme piano.
Écoutez, parce qu'il faut que j'aille lourd avant, parce qu'il faut que je lise les partitions. Tu sais que j'ai un problème avec les partitions, parce que par moment, je ne vois pas clair.
Les grands chefs d'orchestre savent leur partition par cœur.
Bien, madame. Ah, ça, c'est une... Ah, c'est... Écoute, tu me la paieras. Ah, là, elle a raison, cette
Popol,
mauvaise femme.
Popol a déjà les poids en avant et tout.
Ouais. Attention, on n'entend plus Françoise. Mais non, Françoise, c'est rien.
Et Popol, toi qui es musicien,
un bon musicien, bien sûr. Comment ?
Et je voulais savoir comment tu abordes justement la musique de Léo, puisque tu as joué au piano longtemps avec lui.
Moi, Léo, quand il chantait, il m'amenait sa chanson à l'état brut, comme on dit chez Yamaha, tu vois. Alors, il chantait au piano, il me montrait la chanson. Et alors moi, après, il me disait, bon, Popol, tu la prends. Alors, pendant qu'il s'éloignait un peu du piano, je mettais les accords à ma façon, parce que je ne respectais personne, moi. Ni Beethoven, ni Léo, personne. Ce qui fait que c'était atroce pour moi, pour les autres. Attention, parce qu'il y a un psychologue, il va dire, il a dit pour moi d'abord.
Non,
il n'y a pas de hasard, je connais tout le truc. Non, je veux dire que Léo, il était assez sympa pour me laisser faire à ma façon, avec ses musiques. Ce qui fait qu'après, ce qu'il jouait au piano, moi je le transformais, et parce qu'il ne s'accompagnait pas sur scène, puisque j'étais là. C'était une façon de résoudre la crise de l'emploi à l'époque, non?
Et justement, on a reproché un peu à Léo d'avoir laissé tomber ses musiciens.
Oh, dis donc, pourquoi reprocher à Léo?
Premièrement, parce qu'on lui a dit, à une époque où justement, où tu décris l'état mécanique, toi-même, tu te sépares de tes musiciens pour prendre une bande enregistrée.
Mais dis donc, si t'es contre le progrès, d'accord, ça marche, mais cela dit, il existe. Moi, j'aime mieux, quelquefois, un bon disque, qu'un mauvais orchestre. Ça, pourtant, je suis musicien. Peut-être pas un très bon musicien, mais mes goûts sont les goûts d'un musicien. Et je préfère un bon disque, une bonne bande, à un mauvais orchestre. Et ça, je m'en fous. Tout le monde peut téléphoner.
Il faut quand même dire une chose, Popol, c'est qu'au Palais des Congrès, pendant 6 ou 7 semaines, Léo s'est fait accompagner par 120 musiciens. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de chanteurs qui aient un orchestre de 120 musiciens. Il les avait travaillés en bloc, quoi. 120 d'un coup. Bon, effectivement.
Oui, c'est facile, 120 d'un coup.
Oui.
Mais ça, je comprends. Non, mais moi, je veux dire simplement que chacun trouve... Il ne faut pas faire porter à quelqu'un le chapeau de... Tu vois, la mécanisation, quand c'est Sardou qui s'en sert, ou quand c'est même Madame Piaf, que Dieu garde son âme, ou je ne sais pas quoi, enfin bon, si elle en a une, personne ne dit rien. Dès que c'est Léo, parce que Léo, comme c'est un chanteur engagé, il faut que les chanteurs engagés soient tellement engagés qu'ils
doivent faire des musiciens. C'est pas défendu d'être justement d'avoir ce titre de chanteur engagé.
J'aurais dit une connerie, je la retire. Et puis, mais en tout cas, chacun doit traiter ça se traite de gré à gré. Tu vois, moi, par exemple, je te dis, c'est le résultat qui compte. Moi, j'ai perdu souvent des boulots à cause... Tiens, j'ai un copain qui est percussionniste, batteur et percussionniste. Il a beaucoup moins de boulot parce que maintenant, tout le monde a un synthétiseur qui fait de la batterie ou de la percussion. Ouais. Bon, ouais, je crois que le synthétiseur, c'est surtout de la batterie. Parce que la percussion, chez Béla Bartok, tu appuierais sur un bouton, ça jouerait du Bartok. Ça, tu me le présentes, on l'achète, on rigole, toi. Avec des grosses traites et tout. Hein. Ouais. Il y a quoi ruiner la France pour quelque temps. C'est étonnant. Et je veux dire que...
Il voudrait aller chercher Bartok dans sa tombe.
Ben, non, le pauvre, il est étrange, là-bas. Je veux dire que tu comprends. Et ça, ben, c'est le progrès, et c'est tout. Bon ou mauvais, c'est le progrès, c'est comme ça. Tu veux pas... Tu peux faire voter une motion, on est tous des frères, et youpi, mais c'est comme ça. Ouais. Ben mon copain, il est lui-même percussionniste, il jouera des percussions avec peut-être une machine qui elle-même jouera d'autres percussions sur lesquelles il improvisera. Parce que jusqu'à maintenant, les machines n'improvisent pas beaucoup.
Et toi, Wassak, comment tu perçois justement la musique de Léo Ferré et, par rapport à toi-même, je veux dire.
Par rapport à moi-même,
oui.
Bah, c'est trop difficile à dire parce que
bon,
je l'ai toujours considéré, j'ai considéré Léo Ferré comme un grand musicien et en même temps, et comme un grand poète. Pour moi, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais découvert quand j'étais au lycée, un disque de Léo Ferré, c'était vraiment, comment dire, un grand foudre. Bon, ouais. Et puis, en même temps, j'étais déjà fou de la poésie française et tout ça s'est mêlé, ça m'a amené finalement à devenir un chanteur.
Qui chante. Il a appris le français à cause de ça. Lui, ça fout, lui, il est vraiment fou. Et il connaît Cocteau mieux que moi, il connaît Apollinaire mieux que moi.
Enfin, et un jour, je suis venu en France, il y a à peu près 10-15 ans, comme ça, en tant que touriste. Et puis j'avais eu la chance de voir Léo Ferré en scène. C'était impressionnant. Je sais pas pourquoi, mais enfin, je me rappelle plus ce qu'il chantait. Mais la première partie, ouais. c'était composé d'une seule chanson, bien, enfin, c'était long, il n'y avait pas... Vous vous souvenez pas?
C'est pas l'opéra comique, non?
Oui, c'est ça.
Ah, c'est la chanson du Mal-Aimé d'Apollinaire.
Ah oui, c'est ça.
La première partie, 45 minutes.
Oui. Ah oui, c'était ouais. long.
Oui.
Enfin, comme j'étais tellement impressionné de voir Léo Ferré chanter, je ne savais même pas ce qu'il chantait, puis je ne me rappelle plus, mais ça m'a donné un bon souvenir bouleversant et que je garde toujours. Et alors donc, enfin, pour la musique, tout ça, je peux pas dire, j'aime bien...
C'est un peu idiot de dire ça, mais je le pose quand même. Est-ce que tu as été influencé, si je peux dire, par la musique occidentale?
Quand tu traverses la rue ou quoi?
Par le jukebox.
Quand je suis né, enfin, mon pays était déjà...
Vous aviez déjà pris une bombe atomique,
mais américanisé, européanisé, si vous voulez. Ouais. Donc, sans savoir, j'étais déjà européanisé, américanisé. Et alors, donc, pour moi, d'abord, la musique est vraiment traditionnelle japonaise. C'était quelque chose de bizarre.
C'est moi qui t'en ai, il me semble, non? Quelquefois, j'ai l'impression que c'est moi qui t'ai fait découvrir la musique traditionnelle japonaise. Ça, excuse-moi. Oui.
Moi, il était droit à quelque chose.
Comme ça, au moins, il était droit à quelque chose. Tiens, tu me payes tout de suite.
Et donc, enfin,
j'adore la musique impériale.
Inconsciemment, j'ai déjà influencé
impériale.
Par la musique occidentale et après par la musique. Notamment, enfin, quand j'ai voulu être chanteur, Léo Ferré m'a beaucoup influencé.
Et nous en reparlerons tout à l'heure, mais tu vas faire bientôt un spectacle à Paris. Et nous allons dire où et comment.
Alors, le 3 juin, à la mairie d'Espace Japon.
Voilà, il a déjà dit. Je le répéterai.
On y reviendra,
Je le répéterai. Et nous allons revenir à la musique, et par l'intermédiaire de Debussy, donc aussi à Léo Ferré. Alors, c'est Dialogue du vent et de la mer, par l'Orchestre national de l'ORTF.